Bienvenue au podcast Upika, le podcast de crinqués comme moi, comme vous qui m'écoutez. Les crinqués du sport, les crinqués de l'entraînement, les crinqués des paysages québécois et internationaux. Si vous nous écoutez, vous n'êtes pas du Québec. Si vous n'êtes pas du Québec, venez au Québec, c'est beau le Québec. J'étais à Tremblant en fin de semaine, puis c'était le lac Tremblant, la montagne, les paysages. On est chanceux de la nature québécoise. Bref, cette semaine, on reçoit Marianne Hogan, qui est une ultra-marathonienne qui fait des courses de trail, de courses en sentier, mais des ultra-marathons. C'était incroyable. C'était une conversation incroyable. Ça me fascine toujours de parler à des gens qui non seulement font des épreuves aussi folles, mais qui performent dans des épreuves aussi folles. Marianne, qui est arrivée troisième au très, très prestigieux Western State, qui est un 100 miles, donc un 160 km, sous la chaleur intense, l'accomplissement de simplement finir la course du Western State ou un 100 miles en général, mais principalement celle-là qui est reconnue pour être vraiment difficile. Juste le finir, c'est un exploit magistral. Arriver troisième, c'est absolument démesuré. Marianne qui nous parle de l'entraînement que ça prend pour se rendre là, qui nous parle aussi de comment surmonter des épreuves. Marianne qui a eu une énorme blessure, elle s'est cassée une jambe. Qui l'a mis sur le carreau pendant quasiment un an et demi, mais qui a remonté ça pour revenir au sommet de sa forme, au sommet de la performance. C'est une histoire qui est extrêmement inspirante. Elle nous rappelle aussi pourquoi elle fait ça. T'sais, elle c'est ce qu'elle aime plus que les compétitions, c'est d'aller les week-ends avec ses amis, courir dans le bois, faire des explorations, des aventures. Vraiment fascinant. Une personne extrêmement fascinante qui, en ce moment, pendant que je vous parle, est en France en préparation pour le Ultra Trail du Mont Blanc qui a lieu dans quelques semaines. C'est encore une fois une épreuve démesurée en termes d'ampleur. C'est le Super Bowl de la course ultra. C'est puis encore une fois, comme je disais, s'attaquer à des courses comme ça, c'est déjà un exploit en soi. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Marianne va être capable de faire lors de cette course-là. Merci infiniment d'être venu me parler, Marianne. C'était une superbe rencontre. Le podcast est présenté évidemment par Upika. Upika, c'est une compagnie de suppléments pour les sports d'endurance. C'est le premier produit, le Upika Endurance. C'est un tout-en-un pour vos sports d'endurance. Donc, c'est un breuvage. Donc, vous mixez ça à de l'eau et c'est tout ce que vous avez besoin. 25 grammes de glucides, dont 16 grammes sous forme de dextrine cyclique, qui est un glucide qui quitte l'estomac vraiment rapidement. Donc, pas de maux de cœur, ce qui est super important, principalement dans des épreuves de longue distance comme le ultra, comme on parle aujourd'hui. Sinon, 300 mg de sodium pour la rétention d'eau. On a des électrolytes pour remplacer les électrolytes qu'on perd dans la sueur. On a mis de la taurine pour la régulation, la thermorégulation du corps, entre autres, parce que la taurine a beaucoup d'avantages dans une boisson comme celle-là. Vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur les muscles. Bref, une boisson pensée pour les sports d'endurance, premium pour pousser au maximum votre performance, autant en entraînement qu'en compétition. On a aussi le Upika Endurance Plus, qui est la même formule, mais avec 100 mg de caféine pour le petit pic, le petit boost supplémentaire que vous avez besoin. On a un code promo, ou j'ai un code promo ici pour les auditeurs, c'est le Upika Pod, POD10, pour 10% de rabais sur votre première commande. Donc, inscrivez ça, comme ça je veux savoir que vous êtes des auditeurs du podcast. Mais sans plus attendre, j'ai déjà déblatéré assez longtemps. On va écouter la conversation que j'ai eue avec Marianne Hogan. On roule, c'est parti. Merci d'être là.
Ouais, c'est bon, merci.
Yes. On va juste continuer la conversation qu'on avait dans le fond parce que ça m'intéresse vraiment. Là. Comment tu fais pour t'entraîner en trail de façon spécifique pour des épreuves comme le Western State ou UTMB, le UTMB, le 160.
Ouais,
qui est le full UTMB, là, dans un mois.
Ouais, dans moins d'un mois, mais... Oh non, un mois officiellement, je pense, là.
Pas pire. Fait que ouais. Là, t'habites sur le plateau Mont-Royal. C'est quoi les solutions?
Ben, il y en a plein. C'est sûr que les fins de semaine, je les passe pas à Montréal. Là. Ouais. Je pense que depuis que je suis déménagée à Montréal il y a 4 ans, là, je suis jamais restée une fin de semaine
t'es
à Montréal.
T'es native de où, toi?
Je viens des Cantons de l'Est, mais okay. J'ai fait 5 ans en Californie puis 3 ans au Colorado okay. avant de revenir à Montréal.
Ouais.
Fait que, mais depuis que je suis à Montréal, là, je bouge beaucoup. Et puis, il y a vraiment une façon, là, en fait, de Montréal, là, aller chercher des bonnes fins de semaine. Là. Les deux dernières fins de semaine, je suis allée dans les White Mountains, je suis allée à Québec. Mm-hmm. C'est sûr qu'il faut que tu sois prêt à faire le voyagement, mais une fois que c'est fait, là, pour la fin de semaine, t'es all set.
T'es all set, ouais, c'est ça. Mais il faut que tu aies quand même une place. C'est quand même un projet. Il faut que tu aies une place où dormir, faut que tu aies pour aller t'entraîner, mettons.
Ouais, mais ça fait partie de ma routine. Je pense que toutes les fins de semaine, je m'arrange pour avoir quelque chose de all set. Puis c'est ma priorité, hein, puis j'aime ça. Fait que en fait, je trouve ça le fun. Toutes les fins de semaine, ça me donne une raison de m'évader. Puis j'oublie, en fait, j'oublie tout ce qui se passe durant la semaine, la fin de semaine. C'est vraiment un moment où je déconnecte complètement.
Ouais.
Puis la semaine, sinon, le Montréal, c'est quand même bien. Là. Il y a beaucoup, beaucoup d'options. Et puis c'est sûr que ça dépend de la course. Là. C'est sûr que Western States, j'avais besoin de moins de dénivelé que pour l'UTMB. Mais c'est encore drôle. T'sais, la Western States, c'est sûr que le dénivelé négatif est super important.
Mm-hmm.
Mais dans les deux cas, là, j'ai la chance d'aller là, un mois avant la course, d'aller vraiment là, sur place pour pouvoir m'adapter là, aux conditions.
Ouais, mm-hmm. C'est ça, parce que ça, je veux qu'on en reparle plus tard parce que les conditions dans le trail running, c'est quasiment le nerf de la guerre. Pas le nerf de la guerre, mettons, là, mais c'est un des détails vraiment importants. Là. Puis quand je dis détail, c'est un énorme détail. C'est pas un tout petit détail.
Ouais, c'est un énorme détail.
Fait qu'on va en reparler, mais juste avant, tout de suite après ça, moi, c'est la première fois que j'entends ça en termes de course. Là. Tout de suite après le podcast, on va faire un suicide dans les marches du Mont-Royal. Explique-le pour les gens qui nous écoutent.
Ouais, enfin, un suicide, c'est assez simple. Là. C'est que tu montes toutes les marches. En fait, la première fois, tu montes jusqu'au sommet. Puis à chaque fois que tu montes par après, ben, tu descends d'un palier d'avant. Puis ceux qui sont de Montréal, ils savent là, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paliers mm-hmm. là, à Montréal. Fait,
ouais.
Sur le Mont-Royal. Fait qu'il y a moyen de vraiment faire ça. Un gros entraînement, c'est sûr que tu peux le skipper. Là, t'sais, les marches au sommet qui sont des marches de béton, tu peux les skipper. Mais ça fait une façon facile, puis quelque chose de concret que j'ai à faire pour aller chercher un peu du dénivelé ou les marches qui est en quelque sorte ma faiblesse.
Ouais, puis. Tu l'as-tu déjà fait sur le Mont-Royal?
Ouais.
Ça donne combien de dénivelé positif, mettons, à la fin de la journée? Là?
Je sais pas, parce que la montre, elle bug vraiment beaucoup. Là,
hein.
On dirait que la montre, elle pogne pas vraiment que tu fais des marches. Là.
Ouais.
Même que des fois, elle donne des temps là, qui n'ont aucun rapport. Là,
Dans ce coin-là, juste à cause de la géolocalisation de la place?
Je sais pas, c'est pas juste à Montréal, mais je remarque souvent quand tu fais des marches, là, c'est très difficile pour la montre de capter ce que tu es en train de faire. Je sais pas pourquoi. Mais beaucoup de up and down, là, j'imagine, je sais pas.
C'est bizarre.
Ouais.
Puis, combien de temps ça te prend?
Ben, ça dépend vraiment comment tu le fais, là, mais ça peut être n'importe où, entre une heure et demie, là, de marche pure et dure.
Du stock pareil.
Ouais.
Puis, des marches, est-ce que tu trouves que ça transfère bien à du dénivelé positif? Il y a certaines courses qui ont des marches, littéralement, mais... Souvent, c'est plus une montagne, une colline là, ou des...
Ouais, c'est pas spécifique à l'UTMB. Moi, j'aime juste ça savoir que, tu sais, je suis en train de
travailler.
Ouais, travailler mes quads, puis c'est pas de la course plat, là, tu sais, c'est juste que la course plat, j'en ai fait assez, là, pour la Western States, puis là, je commence à préparer plus le dénivelé. Puis, en même temps, c'est quelque chose de le fun à faire, là, je m'en vais le faire avec mon frère, puis on va avoir du fun, là.
Ouais, c'est une activité.
Ouais, c'est ça. On va aller faire les
un petit mardi soir, y a rien, là.
Ouais, exact.
toi, t'as un background en triathlon.
Mm-hmm.
Puis, peux-tu m'expliquer c'est comment tu passes de triathlon à ultra trail?
Ouais, c'est sûr que en fait c'était pour des raisons un peu plus politiques en quelque sorte. Là, moi, j'ai arrêté le triathlon parce que je voulais vraiment aller étudier aux États-Unis.
Ouais.
Puis dans ce temps-là, quand j'avais 18 ans, il n'y avait pas le Division 1, il n'y avait pas de sport
triathlon.
En triathlon Division 1. Maintenant, il y en a, fait que maintenant, ça aurait été une option. Puis probablement que ma trajectoire aurait été différente. Parce que c'est ça, je voulais vraiment aller aux États-Unis. Ça, c'était clair dans ma tête que c'est ce que je voulais. Fait que quand je suis arrivée à 18 ans, j'ai juste vraiment tout arrêté mon triathlon pour aller m'installer en Californie puis faire 5 ans de track. Parce que j'ai fait mon bac puis ma maîtrise. J'ai fait 5 ans de 10 kilos. Et puis...
En cross-country là, ou sur la track?
J'ai fait les deux. Okay. Cross-country et track, vraiment 5 ans là, des deux. Et puis, c'est sûr que quand tu passes 5 ans à courir 25 laps sur la piste. En tout cas, moi aussi, j'ai une personnalité qui est vraiment plus vivre et laisser vivre que que faire des entraînements vraiment ouais,
que checker tes paces, que de timer ta biomécanique puis
surtout tu sais j'ai pas une technique de course qui est parfaite, j'ai pas du tout en fait, tu sais je suis pas le prototype parfait pour la course à pied là. C'est juste que j'adore courir puis j'en fais beaucoup. Fait quand j'ai fini avec l'athlétisme, c'était clair que le marathon ça ne m'intéressait pas du tout.
Ouais, là, marathon sur route là.
Non, c'était vraiment pas, même que plusieurs physios m'ont dit que si jamais je me lançais sur le marathon là, je me blesserais parce c'était que terminé. c'est pas pour ça que je l'ai pas fait, c'est juste j'avais aucun intérêt.
Ouais.
Mais j'adorais courir, je voulais continuer à courir. Fait que, en fait, je suis allée m'établir au Colorado. Et puis, c'est vraiment là que j'ai découvert là, la course en sentier. J'adore être dans les montagnes, mais j'adore encore plus le fait que tu n'as pas à te soucier jamais de ton pace. Ouais. Tu fais juste y aller feeling. Tu pars aussi longtemps que tu veux. Puis, il n'y a pas de. La structure est beaucoup moins là, puis c'est ce que j'adore.
Ouais, je comprends ce que tu dis. Quand tu vas t'établir au Colorado, est-ce que. T'avais en tête de commencer la course en sentier ou ben t'es allé là pour d'autres raisons?
Ben, plusieurs raisons. Là. Quand tu gradues, en fait, avec un...
En quoi t'as étudié?
J'ai fait mon MBA. Okay. Une maîtrise en administration des affaires. Et puis, quand tu fais une maîtrise ou n'importe quoi qui est passé le bac, tu as le droit de faire une étude, une année de travail aux États-Unis, en fait. Puis, puisque ça faisait 5 ans que j'étais en Californie, je me disais, ce serait bien d'essayer quelque chose d'autre. Puis, mon copain, à l'époque, venait du Colorado. Donc, on était allé plusieurs fois, là, tu sais, visiter, là. Puis, la ville de Boulder, c'était une ville qu'on était allé à maintes reprises, que j'adorais, là. C'est vraiment un vibe qui est dans la ville que j'adore, là. Les gens, les activités, juste le vibe de la ville est juste vraiment quelque chose que j'ai vraiment adoré puis qui m'a vraiment attirée.
Super axé sur le plein air.
Ouais. Puis tu sais, la première fois que je suis déménagée, puis la première fin de semaine où je suis arrivée, tu sais, je me suis fait des amis, on allait faire du camping, puis ce fut ça, là.
C'était terminé. That's it, c'est ici, je vais arrêter.
Ouais. Fait que je suis restée là 3 ans, puis j'ai adoré, puis c'est vraiment là que j'ai commencé à bâtir un peu l'arrière-plan là, de la course en sentier.
Puis pour les coureurs nord-américains, c'est pas mal le Colorado. C'est pas mal là que ça se passe, là, pour les coureurs de trail, là, tu sais.
Ouais.
C'est pas mal au Colorado que ça se passe, là, à Boulder, justement.
Ouais, Boulder, c'est vraiment l'épicentre, là, je te dirais. Là. C'est sûr que Flagstaff, c'est quand même assez élevé. Il y a des places en Oregon qui sont bien, Utah aussi.
Mais Flagstaff, c'est plus pour les coureurs sur route, là.
Mais il y en a quand même des bons, okay. Là, coureurs en sentier, là. Okay. Flagstaff, c'est quand même un bon endroit, surtout que t'as le Grand Canyon, là, quand même assez proche. C'est un super bel endroit là, pour courir. La course en sentier est quand même pas mal. C'est juste que c'est moins décoré, je te dirais. C'est juste que c'est... Mais il y a beaucoup de beaux sentiers. Puis en plus, t'es quand même pas mal en altitude.
Ouais, c'est
là.
Ça. Mm-hmm. Ouais. Fait que là, tu découvres ça. Puis est-ce que rapidement, tu te dis... Ben, tu sais, au-delà de tomber en amour avec le sport pour son manque de structure, comme on parlait tantôt, là, est-ce que rapidement, tu te dis comme, « Oh, OK, il y a peut-être quelque chose là qui est plus dans mon range que, mettons, l'athlétisme sur route, là. »
Oui, vraiment, parce que l'athlétisme, tu sais, j'étais correct, là. Tu sais, j'étais capable de garder une place sur l'équipe puis de courir des temps qui étaient respectables, mais j'avais pas une carrière où j'avais pas du tout un futur, là, plus qu'il faut. Mais bien que j'ai adoré, puis tu sais, je trouve que ça m'a donné une très belle base pour la course en sentier. Mm-hmm. Mais c'est sûr que je pense que physiologiquement, là, les gens disent toujours que j'étais un peu plus un diesel ou tu sais, depuis que je suis toute jeune, je pense que tu sais, je fais toujours des négatifs splits ou des splits
sur
égales.
Toutes tes affaires, là.
Toutes mes affaires, natation, course à pied, tu sais, 200, 400, moi, c'est toujours les mêmes splits. Ouais. Mon meilleur temps au 5 kg, c'est 17. Puis mon meilleur temps au 10 kg, c'est 35, okay. 19. Ouais. Donc, c'est vraiment, je suis vraiment plus sur le long. Puis j'aime beaucoup mieux ça. Là, fait que c'est les deux vont ensemble.
Ouais. Puis tu passes combien de temps au Colorado?
3 ans.
3 ans. Ça nous amène à quelle année avant que tu reviennes ici?
Je suis revenue ici en 2017, à l'automne de 2017.
Directement à Montréal?
Directement à Montréal, ouais.
OK. Puis, à ce moment-là, tu travailles, j'imagine?
Je travaillais au Colorado, puis j'ai arrêté de travailler, en fait, en juillet. Puis, je suis revenue, en fait, je suis allée, j'ai fait une course en Europe avec Mathieu Blanchard, c'était la Transalpine. Mm-hmm. Et puis après ça, je suis restée là peut-être un mois, là, profiter un peu des montagnes.
Ouais.
Puis après ça, je suis revenue m'installer ici. Puis à ce moment-là, j'avais pas d'emploi. Puis l'idée, c'était justement de retrouver un peu qu'est-ce qui... Ben, en fait, de voir un peu qu'est-ce que je pouvais faire ou qu'est-ce que je voulais faire. Mm-hmm. Et puis, à ce même moment-là, en fait, c'est ça. C'est là que j'ai réalisé que si je faisais que de la course à pied, ce serait dangereux un peu pour au niveau de ma santé physique.
Ouais.
Parce que c'est sûr que moi, si j'ai 12 heures dans une journée...
Tu vas les passer à courir.
Je vais les passer à courir, puis je le reconnais beaucoup plus maintenant que je le reconnaissais avant. Là. Avant, c'est quelque chose que je faisais, puis je le faisais sans limite, mais maintenant, c'est quelque chose que je...
T'essaies de restreindre un petit peu.
Ouais, vraiment beaucoup, puis avoir un emploi, ça m'aide à limiter mes heures là, que ouais. je passe à m'entraîner.
Ouais, parce que effectivement que... les risques de blessures à course à pied, moi, j'étais un nageur avant, puis j'ai nagé pendant 20 ans, 20 à 25 heures semaine, toute ma vie, là. Je me suis jamais blessé une fois, tu sais. Puis depuis que j'ai commencé à courir plus, je le sens, tu sais, là, comme, oh, il y a quelque chose dans mon genou, puis là, oh, il y a quelque chose là, quelque chose là. Puis il y a tout le temps, comme on dirait, quelque chose. Fait que de marcher la fine ligne de ça, c'est quelque chose que toi, tu trouves difficile.
C'est quelque chose que je trouvais plus difficile que je trouve difficile aujourd'hui. Puis je pense que c'est un tout. Je pense aussi que il y a un shift entre le monde de l'athlétisme puis le monde de la course en sentier au niveau de la nutrition. Ouais. C'est sûr que je pense que j'étais beaucoup plus petite et puis en rétrospect, c'est là que tu réalises que c'était probablement pas nécessairement sain d'être à ce niveau-là ou à ce poids-là. Et c'est certain que c'était un poids qui convenait pas à le sport d'endurance, le ultra-endurance. Ouais. Donc, c'est un shift qu'il a fallu que je fasse. Puis ça m'a pris quelques temps, en fait, réaliser que ce shift-là était nécessaire. Et puis, une fois que je l'ai fait, en fait, je réagis beaucoup mieux à plus de volume. Dans les dernières années, là, j'ai beaucoup moins de blessures. C'est sûr que j'en ai, mais c'est beaucoup plus des blessures accidentelles.
Un traumatisme.
Ouais.
Fait que... T'en as-tu eu beaucoup dans les dernières années, des blessures liées à une cheville foulée ou des affaires de même?
Ouais, j'en ai eu énormément. j'ai eu beaucoup de cheville foulée, même qu'en mars, là, je me suis disloqué un os là, après une foulure.
Ah ouais, hein?
J'ai un traumatisme, je me suis cassé la jambe, là, fracture spirale, tibia péronée. Mm-hmm. Ça m'a pris énormément de temps à m'en remettre. Là,
c'est
ouais.
sûr.
Ouais.
C'est sûr, puis recommencer de ça... j'imagine que t'as jamais arrêté de bouger. Tu me sembles quelqu'un qui, si t'arrêtes de bouger, tu vas virer folle.
Ouais, c'est sûr que c'était difficile, mais quand je me suis cassé la jambe, la tibia péronée, là, ça a été très difficile à ouais. pouvoir continuer
ça, c'est
à bouger.
Quand, ça?
En 2018, ça, donc tout de suite après.
Comment est-ce que c'est arrivé?
Je courais en sentier, puis ma cheville, elle a tourné. Elle est restée prise dans une racine, puis
c'est le genre d'affaire... Ouais. Moi, quand je cours en trail puis que je vois ces racines-là, mettons, tu sais, des genres de racines qui font un genre de... qui font juste comme sortir un peu de la terre, là, puis là, je fais juste m'imaginer mon pied là-dedans. Je fais ça, c'est la pire chose qui pourrait arriver. Puis toi, ça t'est arrivé.
Ouais, ça m'est arrivé, puis c'est arrivé tellement vite. Là, tu cours, tu te passes super bien, on est en train de rire, puis à un moment donné, tu tournes, je tombe. Puis instantanément...
Oh, j'ai de la chair de poule.
Ah ouais. Et puis instantanément, j'étais sur le ventre, puis j'ai dit « Ah non, je me suis cassé la jambe. » Puis j'étais avec mon frère, puis il m'a dit « De quoi? » Puis là, je suis tourné de bord, puis la jambe était définitivement plus dans l'axe.
Fuck ça. Puis là, t'es-tu comme au milieu du bois, là?
C'était pas si pire. Je faisais la boucle du diable là, à Tremblant. Je sais pas si c'est quoi.
Ouais, c'est comme si tu comme la boucle qui fait tout le tour.
Ouais, c'est 50 kilos.
Puis dans ce. Ok, non, c'était pas celle-là que j'ai faite. Moi, j'ai pas fait 50.
Ok.
J'avais fait une qui faisait genre 22.
Ok.
De tout le tour, qui montait en haut puis là, qui redescendait.
Non, mais là, c'est dans le parc de Tremblant.
Ok, ok.
Pas de la montagne.
Ouais,
non. Moi, je te parle du tour dans le parc de Tremblant sur une boucle de 50 kilos. Puis j'étais vraiment chanceuse parce que. Il y a des endroits sur la boucle où tu peux être à au moins 15 km de quoi que ce soit. Là. Mm-hmm. Et puis là, où est-ce que moi j'ai tombé, j'étais peut-être à 1 km de la route. Okay. Fait que c'est...
Oh, c'est fou. Ouais. Oh, il y a c'est un des dangers quand même de la course en trail. Tu sais, juste à... J'ai essayé de faire le 80 du QMT.
Ouais.
Puis, à un moment donné, entre deux ravitaux, quasiment au milieu, entre deux ravitaux sur le... le sentier des Capes, il y avait un gars qui s'est vraiment pété la cheville juste devant moi, tu sais. Puis là, on était cinq arrêtés, puis à faire « ça va », tu sais.
Ouais.
Puis là, le gars, il était assis, il disait « ça va, mais je peux pas marcher sur ma jambe ». Fait que là, on fait « bon, mais on va aller le dire au prochain ravito », tu sais.
Mm-hmm.
Fait que là, on part pour le prochain ravito, le gars, il reste là assis, tu sais, lui, il va voir passer tout le monde toute la journée, mais le prochain ravito, il était comme à 40 minutes de là, à course, là, tu sais. Le gars, il était au fond de... Fait que là, moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà du monde qui était plus vite que moi, qui était allé l'avertir, puis genre à 500 mètres du ravito, je voyais le monde, la sécurité qui s'en venait, mais il y en avait en tabarnak à faire avant de se rendre jusqu'au gars.
Ouais.
C'est du stock pareil.
Ouais, c'est du stock. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a moyen quand. Ben, ça dépend c'est quoi ta blessure, là, mais il y a moyen habituellement là, d'essayer de t'en sortir.
Ouais,
puis tu sais, c'est un risque absolument, mais c'est sur les sur les, je sais pas, il y avait combien de coureurs à QMT, mais c'est...
Il y a des chances que tout le monde, que quelqu'un te voit.
Oui, il y a des chances que quelqu'un te voit, mais je veux aussi dire que par là, je veux pas effrayer les gens en voulant dire que sur les...
Oh, ouais, non.
Sur les X nombre de coureurs, il y en a peut-être un ou deux avec qui ça arrive. Puis,
exact.
Puis mettons, moi, dans ma vie, là, je me suis cassé. Oui, c'est quand même bizarre que je me suis cassé une jambe en courant, mais ça fait 33 ans que je cours, 32, pardon. Puis, moins des années, évidemment, mon point, c'est juste que c'est la première fois que vraiment, j'ai eu un traumatisme en courant, puis ça fait partie de la game, là, en quelque sorte.
Ouais, puis c'est ça, c'est qu'il y a du monde aussi qui vont faire une carrière sans se casser une jambe.
Absolument, tu sais. Ouais. C'est plus du jamais vu qu'autre chose, se casser une jambe en courant.
C'est ça. Puis combien de temps ça t'a pris, mettons, revenir de ça à revenir au niveau que t'étais, mettons?
Ça a pris énormément de temps. Là. Je me suis cassé la jambe en 2018. J'ai eu deux plaques 15-8 dans la jambe. C'était très difficile parce que, en fait, de un, ça m'a pris 6 mois de recommencer à même pouvoir essayer de courir. Là. Puis même quand j'ai recommencé, je boitais.
Ouais.
Et puis, après ça, même quand cet été-là, quand j'ai couru, là, donc une année complète plus tard, chaque pas, là, tu sais, je chantais toutes les vis, je chantais toutes les plaques. C'était vraiment, vraiment désagréable. Pour moi, ça marchait pas du tout. Donc, un an et demi plus tard, j'ai fait retirer mes vis, mais là, c'est une autre réadaptation, en fait. Donc là, c'était pratiquement 2 ans plus tard que j'ai pu recommencer à courir là, de façon progressive. Puis,
pile-poil pour la pandémie.
Pile-poil quasiment pour la pandémie, ouais. Fait que c'est sûr que la pandémie m'a aidé à en faire reprendre le dessus de tout ça. Mais ça a quand même été un ajustement, là, puis difficile. Là, c'est sûr que quand t'adores faire quelque chose autant que j'aimais courir ou que j'aime courir, ça a été des moments qui étaient plus difficiles. Ou juste c'est là que tu réalises que l'équilibre de ta vie est super importante, puis que tu dois avoir autre chose là, qui vienne te chercher pour pouvoir en fait combler tes journées.
Oui, c'est clair. Mm-hmm. C'est clair. Quand tu mets tous tes œufs dans une affaire, tu te rends vite compte que cette affaire-là tient un fil.
Ouais.
Fait que là, chronologiquement, ça nous amène à la pandémie, dans le fond, début de la pandémie.
Oui, début de la pandémie.
Puis là, comment t'entrevois, tu sais, parce que j'imagine que c'était très incertain pour toi, qu'est-ce qui allait se passer avec ta carrière de coureur, mm-hmm. tu sais, de coureuse, quand que ça arrive.
Ouais.
Comment... Quand tu arrives à la pandémie, comment tu entrevois ça? Comment tu voyais ça? Est-ce que tu te disais, il y a une chance que ça soit encore une carrière ou non?
C'est sûr que ça a toujours été un rêve pour moi de revenir, là, en voulant dire que c'est toujours quelque chose que je voulais, puis c'est toujours quelque chose pour lequel j'étais complètement prête à travailler pour. Mais je t'ai réalisé aussi à savoir que, tu sais, même aujourd'hui, là, c'est sûr que mes chevilles, là, sont super. En fait, sont vraiment pas fortes. Je suis probablement celle qui va se tourner plus souvent les chevilles, puis j'ai un risque très élevé. J'ai beaucoup de faiblesses. Même mon mollet droit est toujours plus petit que mon mollet gauche. Mm-hmm. Donc, j'ai encore des séquelles. Mais oui, c'était toujours quelque chose auquel je travaillais. Mais j'étais chanceuse parce que j'ai eu l'opportunité, en fait, dans ce moment-là, j'ai été contactée par l'équipe de triathlon canadienne paralympique. Et puis, je suis rentrée en tant que guide paralympique. Puis ça m'a permis de travailler sur quelque chose qui était... évidemment, là, quelque chose qui était... c'était incroyable comme expérience humaine, mais aussi, ça m'a permis de me remettre en forme de façon autre que juste par la course à pied. Mm-hmm. Donc, j'ai recommencé à faire beaucoup plus de vélo, la natation, puis ça m'a aidé à revenir là, dans un état qui était plus propre à la personne que j'étais avant que je me casse la jambe.
Ouais. Puis au moment où est-ce que, justement, t'arrives puis tu serais théoriquement prête à reprendre la compétition, il n'y a comme plus de compétition vraiment.
Ouais, exact.
Fait que qu'est-ce que tu fais rendu là?
Ben moi, en fait, la compétition, j'adore ça, mais ce que j'aime plus, c'est pouvoir aller dans les grosses aventures, fins de semaine. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours continué à faire. Là. Mm-hmm. Évidemment, je dis pas par là que j'ai pas suivi les règlements de la pandémie, mais c'est sûr que, tu sais...
Quand c'était des ondes rouges, j'y allais pas.
C'était des ondes rouges, j'y allais pas. Mais aussi pour dire que tu sais, moi, le moindrement que j'étais capable de pouvoir retourner avec mes amis pour faire des longues fins de semaine, des longues sorties, c'est tout aussi important pour moi de faire ça que faire les compétitions.
Ouais.
Je pense que les compétitions, ça vient en second lieu. Je pense que c'est... si j'étais vraiment pour ranker ce que j'aime le plus, je te dirais que c'est plus les fins de semaine que j'adore. Mm-hmm. Puis les compétitions, ça vient un peu donner une raison au pourquoi tu fais les fins de semaine. Mais en même temps, c'est un cercle qui tourne. Je trouve que c'est un peu des deux. Fait que moi, la pandémie, j'ai pas trouvé ça... évidemment, là, c'est sûr que ça a beaucoup de côtés négatifs. Là, puis j'ai le côté humain dans tout ça, encore une fois. Mm-hmm. Mais moi, pour pas compétitionner pendant une année de plus ou de moins, ça me dérange pas nécessairement tant et si longtemps que je peux aller sortir les fins de semaine.
Ouais, c'est ça, parce que même s'il y avait... En fait, s'il y avait bien une affaire qui était encouragée pendant la pandémie, c'était comme voyager dans le Québec puis courir dehors, tu sais, aller jouer dehors. mettons. Ouais, sortez, ouais, ouais, tu sais.
Oui, oui.
Puis aller à l'extérieur, puis faites des randonnées, justement, ou tu sais, des hikes,
ouais,
de
ouais,
la part même.
Oui, absolument. Fait que moi, quand il y avait ça, j'étais vraiment comblée.
C'était assez,
ouais,
c'était assez pour toi.
Ouais, ouais.
Puis après ça, toi, dans le fond, est-ce que tu avais fait un 100 milers, ben un 160 kilos avant tout ça?
Non.
C'était jamais arrivé.
Non, c'était mon premier.
Cette année, c'était ton premier,
ouais,
c'est ça. Au Western State, c'était ton premier.
Ouais.
Qu'est-ce que tu avais fait avant les plus longues? Là, les...
Ma première plus longue, ça a été Arikana, le 125.
Le 125?
Ouais. Et puis
tu avais remporté le 125?
Non. Là, je me suis tourné la cheville vraiment beaucoup. Je me suis tourné la cheville au kilomètre.
Vraiment beaucoup.
Ouais. Ça faisait peur. Ma cheville, par après, là, était aussi grosse qu'une balle de baseball. Là.
Au kilomètre combien?
82 environ. Mais je l'ai fini, là. J'étais en première quand c'est arrivé, puis finalement, je l'ai fini, là.
T'as-tu marché les 40
derniers? Les premiers peut-être 5-10 km, c'était de la marche course rapide. Mm-hmm. Puis après un petit bout, ton corps, il oublie un peu qu'est-ce qui se passe. La seule affaire qui était très dangereuse ou très compliquée, c'était les descentes. Là.
Ouais.
Donc là, les descentes, j'avais vraiment de la misère à les courir, puis j'y marchais plus qu'autre chose. Là.
Ouais, mm-hmm. Ouais. Oh, en tout cas, c'est du stock pareil. Puis, fait que là, ça, c'était le 125.
Ouais.
Arikana, est-ce que c'était l'année passée? C'était en
2021.
Mm-hmm. Puis après ça, t'as fait, t'es allé pour avoir ton golden ticket, c'était au Texas. Au Texas, mm-hmm. C'est ça?
Ouais.
Puis, c'était quoi cette course-là?
C'était un golden ticket au Texas, c'est un 100 kilos.
Ouais.
Puis c'est ça, c'était un 100 kilos qui est quand même assez rapide.
C'était
là.
Pour se qualifier, dans le fond,
ouais,
c'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais,
parce
la
que seule... là, pour ceux qui nous écoutent, dans le fond, le Western State, c'est comme une course mythique.
Ouais, c'est
qu'il faut que tu te qualifies.
Ouais, c'est la plus ancienne, en fait.
Ouais.
Ouais.
Fait que t'étais allé là pour te qualifier, puis toi, c'était l'objectif de te qualifier pour ça?
Ouais, absolument.
Puis du moment que tu t'es qualifié, est-ce que t'es tombé en mode, OK, ben là, l'objectif ultime, c'est Western State?
Ouais,
100%. Ouais, tout de suite.
Ouais.
Puis décris-moi donc Western State comme le parcours, tu sais, ça ressemble à quoi, puis comment tu t'es préparé pour ça?
Ouais, ben c'est un parcours qui est vraiment intéressant parce que, ben en fait, en premier lieu, tout le monde n'arrête pas de dire que la Western State, c'est une course qui est pratiquement juste la descente où il faut juste que tu cours de la descente, mais il y a quand même beaucoup de montées puis il ne faut pas l'oublier. C'est environ, je pense que, là, ça se peut que je me trompe dans les chiffres, là, je ne suis pas la meilleure là-dedans, mais à peu près 5000 mètres de montée puis 6000 mètres de descente. Donc oui, il y a un écart, mais l'écart n'est pas non plus...
Elle n'est pas insane. Puis c'est ça, 5000 mètres de montée, ça monte quand même.
Ouais. mais ça se peut que je me trompe, là, mais parce que c'est à peu près ça. Donc, puis la course est vraiment particulière parce que tu commences en altitude, donc tu commences vraiment dans le high country, le plus mm-hmm. près du lac Tahoe, et puis tu finis en Californie dans une petite ville qui s'appelle Auburn, et puis tu passes à travers des canyons, et puis dans le fond tu pars à un endroit plus élevé, tu descends dans la vallée, donc où est-ce qu'il fait beaucoup plus chaud.
Ouais.
Et puis à travers les canyons, c'est incroyablement chaud, là, je veux dire.
C'est genre, ça condense.
Ouais, là. Ouais, ils appellent ça des fours à pizza, là, surtout s'il fait chaud dans les jours avant la Western States, dans le fond, c'est comme si ça cuit là-dedans, là, puis là, tu descends dans les canyons. Puis c'est vraiment particulier parce que quand tu pars dans le high country, il fait quand même froid le matin. Là, les gens qui sont là en spectateur, ils ont des gros puffies, c'est froid. Là.
Mm-hmm.
Puis c'est dur de t'imaginer que tu vas avoir chaud dans la journée, mais t'as vraiment
chaud. Que tu vas vouloir mourir rendu
ouais,
en bas.
Ouais. Fait que c'est vraiment particulier. Puis le high country est un peu technique, mais pas tant que ça. C'est vraiment, quand tu pars du Québec aussi, c'est sûr que tu arrives en Californie, puis ils utilisent l'expression le California carpet. Mm-hmm. Puis c'est vrai que c'est des trails qui sont vraiment roulantes, puis ça court super bien. Mais
ouais, il y a pas vraiment de trail sur le plat à 12 minutes du kilo.
Non, vraiment.
Si on en a beaucoup quand même de ces trails là qui avancent pas en tout, tu fais c'est quoi je suis en train de faire là. Ouais.
Mais c'est vraiment mieux faire l'inverse, hein. C'est vraiment une partie du Québec d'aller là que d'aller de la Californie au Québec parce
que doivent faire des sauts pas mal qui arrivent ici, font comme c'est quoi ces petits trails là, il y a rien à faire avec ça.
Ouais.
Fait que la chaleur puis au début, j'ai dit on va reparler des conditions là, des trucs comme ça parce que oui, le froid, c'est quelque chose, mais moi, ce qui me tue, c'est la chaleur. Là.
Mm-hmm.
Quand il fait chaud, là, mes pulsations, through the roof, puis là, je suis capable de descendre, je suis comme un tabarnak, puis à la fin, tu sais, genre, juste au QMT 80, tu sais, il s'est mis à faire vraiment humide, là, j'étais mouillé comme si je venais de prendre une douche. Mais constamment. Ça séchait pas parce qu'il n'y a pas de vent. Là. Tu sais, t'es dans la forêt boréale. Il n'y a aucun vent. Puis t'es juste. Faut que tu boives comme un malade. Comment tu te prépares à ça? À cette température-là? Tu me disais que t'es allé un mois avant?
Ouais, je suis allé un mois avant. Fait qu'il y a deux choses, en fait. L'autre chose aussi qu'il faut vraiment pas oublier, c'est que tu commences à high country, fait que tu commences autour de 2000 mètres, donc
ouais, faut que tu sois capable aussi.
Fait que c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut que tu t'adaptes à l'altitude et à la chaleur, mais tu peux pas nécessairement faire les deux en même temps juste en étant dans le climat, parce que si t'es en altitude, il fait pas si chaud, tandis que... Fait que moi, j'étais pendant le mois avant vraiment à la chaleur, donc c'est sûr que, tu sais, les choses très simples, c'est d'aller courir au moment le plus chaud de la journée, là, ça c'est super simple, faire des intervalles.
Est-ce que t'as l'impression que le corps s'adapte rapidement?
Ben moi personnellement, je vais t'avouer que je suis quelqu'un qui adore la chaleur, là, même que moi je pourrais aller courir. En fait, moi c'est toujours la joke là, je veux toujours aller courir quand il fait le plus chaud, puis j'aime
mais
ça.
Mais pourquoi?
Je sais pas, j'aime vraiment ça. Comme, tu sais, quand j'étais jeune, j'aimais ça rentrer dans une auto quand il faisait super chaud là, tu sais, puis que t'as l'impression que c'est un sauna là-dedans là. J'ai toujours été comme ça, puis pourtant j'ai grandi au Québec là,
c'est la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un dire ça.
Je sais, j'ai pas de non, j'adore ça, puis c'est drôle parce que
même... t'es capable, mettons, tes capacités cardiovasculaires, tu sens pas qu'ils sont affectés?
Ben un peu quand même, là, mais mettons pour la Western State aussi, j'ai fait du sauna, là, donc c'est sûr que je me suis adaptée un peu. Mais non, moi, le jour de la course, franchement, même si c'était la joke un peu, là, je suis arrivée à la crew à un moment donné, puis j'ai demandé s'il faisait chaud. J'ai dit, est-ce qu'il fait particulièrement
chaud? Tout le monde est en bedaine, je suis comme des malades.
Puis tu sais, c'est sûr que j'avais chaud comme tout le monde, mais moi, je l'aperçois un peu moins. C'est juste, en fait, une préférence. Moi, j'adore la chaleur. C'est sûr que, tu sais, la question, là, est-ce que t'aimerais mieux mourir de froid ou de chaud, c'est sûr que moi, je réponds chaud. Là,
à brûler, vivre. Mais puis, est-ce que tu sues plus que moins que la moyenne? Ou?
Honnêtement, je pense que je suis de façon moyenne, de la moyenne. Là, j'ai pas
normal.
Non, je pense que physiologiquement, c'est pas
nécessairement... C'est juste que t'aimes ça.
Non, j'aime ça. J'ai pas de... Évidemment, il y a eu des moments où j'ai eu chaud, puis j'ai utilisé tous les cooling techniques, puis c'est sûr qu'il faut la gérer. Puis c'était pas... Je dis pas que ça a été facile ou quoi que ce soit. Je dis juste que moi, je trouve ça quand même assez plaisant. Puis même que, tu sais, on voulait qu'il fasse chaud. On voulait qu'il...
Ouais, parce que ça, si toi t'aimes ça, ça nuit un peu aux autres. Là, en même
temps. Exact, en quelque sorte, ouais.
Ouais. J'avais vu une chaîne YouTube, peut-être que tu connais ça, c'est Sweat Elite, que ça s'appelle.
Ok, non, je sais pas.
Puis le gars, il va genre suivre des coureurs pros. Là. Souvent, c'est du monde de track ou des marathoniens, mais il était allé passer une journée avec Jim Wamsley.
Ok.
Avant justement la Western State de l'an passé. Puis il arrive chez Jim Wamsley, puis là, ils ont comme 2 heures de char à faire pour se rendre jusqu'à la place où il fait sa longue sortie. Là, c'est comme c'était sa dernière longue sortie. C'est comme un 3 heures. Là.
Ouais.
Puis le 2 heures de char, c'est le soleil plombant en Arizona. Puis, je me rappelle plus c'est où exactement. Je pense que c'est en Arizona. Mais les fenêtres fermées, pas d'air clim, dans son char pendant 2 heures.
Ouais.
Puis là, lui, il dit « Ah non, c'est pour m'habituer. » Puis là, au début de la vidéo, le gars de Sweat Elite qui fait jamais ça, il met la caméra devant lui puis il dit comme là, « Je veux juste vous avertir. » On a fait ça au début, puis j'ai comme manqué perte connaissance, fait que j'ai pas réussi à le filmer. À où est-ce qu'on allait filmer, là,
ouais,
tu sais?
Ouais, ouais.
Parce que là, Jim Wamsley, il pogne son char, puis il part, puis tu sais, lui, il est là, il parle, l'autre, il est en train de mourir sur le côté, là, tu sais? Fait que le corps s'adapte,
tu imagines? Oui, le corps s'adapte, ouais. Puis il y a vraiment de la science, là, derrière ça, là, tu sais, que tu devrais le faire, mettons, X semaines avant, X jours avant, tu devrais réduire, tu sais, toute cette science-là. Mais il y a plein de façons de le faire, là, c'est juste de trouver un peu. Moi, j'aime ça les faire de façon qui est un peu le fun, là. Quand moi, j'ai fait beaucoup de hot yoga pendant que j'étais en Californie, parce que j'adore ça aussi, fait j'ai pas l'impression que c'est un entraînement tant que tel. Mais j'ai fait du sauna, puis ça, c'est sûr que c'est pas plaisant.
Non. Juste rester, te forcer à rester dans quelque chose de vraiment chaud, là, c'est tough. Là.
Ouais.
Puis genre, rester là, mettons, moi, je prenais des bains là, à l'année de juste pour la circulation puis la récupération, là, juste des bains chauds, mettons, puis j'essaie de me dire 30 minutes.
Ouais.
Je reste... 30 minutes, c'est long.
Ouais, c'est long.
Les derniers 10 minutes, là, t'es là, puis tabarnak, j'ai envie. Genre, j'ai juste hâte d'avoir frais, là, de sortir d'ici, puis de comme être bien. Là.
Ouais.
C'est du stock. Puis quand tu te préparais pour ça, est-ce que t'avais un podium en tête? C'était quoi, mettons, que tu te disais, je suis capable de faire ça?
Ben, je dirais pas que je l'avais en tête. Là. C'est sûr que mon objectif principal, c'est un top 10. Là. Parce que pour ceux qui savent pas, en fait, le top 10, il retourne automatiquement l'année d'après. Et puis, c'est sûr qu'avoir ce poids-là hors de mes épaules là, pour savoir que je peux retourner l'année prochaine sans avoir à aller me chercher un golden ticket, c'était l'objectif principal. Et puis, je me donnais aussi la chance de vivre l'expérience là, en voulant dire que j'ai jamais fait de 100 miles puis j'ai aucune idée comment mon corps allait réagir. Puis, je pense qu'il fallait vraiment que... fallait pas que je prenne ça pour acquis que parce que j'ai bien fait dans les 100 kilos dans le passé qu'un 100 miles, ça allait passer. Aussi. Fait que,
c'est plus que 50% qui te reste à faire. Là.
Ouais. Fait que dans ma tête, très, très honnêtement, je me disais un top 10, je serais vraiment incroyablement ravie. Un top 5, je serais
aux anges.
Aux anges, puis un top 3, je veux dire, c'est sûr que c'est le rêve, là. Ouais. Mais ouais, même pendant la course, je te dirais que quand je suis arrivée troisième, on dirait que je réalisais pas que j'étais troisième. Puis en fait, je comprenais pas nécessairement non plus comment ça s'était passé. Là, on dirait que tout était comme arrivé tellement vite. Puis j'ai pas eu une course non plus. C'est ça qui est drôle, c'est que j'ai vraiment pas eu ma meilleure course. Mais c'est
comment ça s'est passé, la course? Mettons que tu nous décris ça à une couple de sections, de secteurs, mettons, ou d'espace mental. Là.
Ouais, ouais.
Parce qu'il y en a beaucoup dans un 100 miles des espaces mentaux, j'imagine.
Ouais, mais c'était particulièrement drôle parce que, en fait, le premier gros ravito, il est comme au kilomètre 32. Mm-hmm. Et puis.
Ravito assisté ou.
Ouais, ravito assisté, mais c'est aussi là que tu sais, le film crew. C'est vraiment là que, mettons, les spectateurs vont voir les premières nouvelles des. Mm-hmm. Qui est où. Outre la première montée, là, qui veut pas vraiment rien dire. Là. Ouais. Fait qu'à 32 km, mais c'est au bas d'une descente. Puis moi, les descentes, c'est vraiment ma force. Puis c'est vraiment là qu'habituellement, je me donne à fond puis que je prends mon avance, en quelque sorte. Et puis, donc, être à la bas d'une descente. Et puis, en haut de la montée, avant de la première descente, j'étais peut-être en 8e position, 7e ou 8e position. Mais j'ai pris la descente et j'arrive à ce premier ravitaillement-là en première position. Je me sens vraiment bien, mais évidemment, c'est un peu comme « wow ».
Qu'est-ce qui est en train de se passer, là? Est-ce que c'est moi qui a mal compris comment gérer mon effort, là?
Fait que j'arrive là, puis là, je suis là « merde, là ».
Merde, je suis partie trop vite. Tu te sens encore fraîche, mais t'es partie trop vite.
Ouais, c'est pas l'attention médiatique que tu veux, là, nécessairement arriver première ou première avito, parce que peu importe ce qui arrive par la suite, les gens vont soit dire « ah, tu sais, blablabla ». Puis c'est juste aussi, tu sais, vu que c'est mon premier 100 miles, je voulais faire attention de ne pas partir trop vite. Mm-hmm. Fait qu'après ça, ce qui est arrivé, c'est que
Mais t'as quand même. Est-ce que c'était somme toute un peloton ou bien en première descente, t'as vraiment descendu
non,
plus vite que tout le monde?
Non, c'est un peloton. Là. J'étais 7e, mais j'ai dépassé tout le monde, puis je suis arrivée, mais tout le monde a suivi le tac. J'étais pas comme si j'étais vraiment beaucoup d'avance.
Ouais, puis t'es pas parti 3 minutes après.
Non, je sais pas. Peut-être 3 minutes, mais comme ça se rattrape vite dans une descente. Une descente qui peut durer, était peut-être 6-7 kilos, là, fait que t'es capable d'aller quand même chercher si tu vas vite tandis que quelqu'un prend ça easy. Fait que j'arrive là, tout se passe bien, je repars. Et puis, en fait, là, c'est la deuxième section de la course là, qui, pour moi, était absolument la plus dure. Puis c'est là que j'étais là, merde, là, j'ai vraiment... Je suis partie trop vite. Mais non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à me sentir vraiment malade. Puis depuis ce temps-là, tout le monde me demande pourquoi. Puis honnêtement, j'ai franchement aucune idée à ce jour.
T'as encore pas la réponse.
J'ai pas la réponse. En fait, j'ai eu un énorme problème gastrique. Mon ventre, il a gonflé comme ça se peut pas, puis j'étais pas capable de manger. Puis j'avais mal au ventre qui me donnait mal au dos. Parce que même avant le départ, j'ai eu des problèmes de dos là, dans les semaines avant.
Ouais.
Et puis, en fait, là, c'est ça, les 40 kilos qui ont suivi, j'étais juste tellement en douleur, puis j'avais vraiment de la misère à manger, à boire, et puis mon énergie a vraiment comme complètement descendu.
Ouais. Puis, il y a rien que t'avais... tu t'es déjà posé la question, puis tu dis que tu sais pas la réponse, t'as connais pas, là, mais t'as pas essayé quelque chose de nouveau cette journée-là ou la veille, là, tu sais.
Non, mais tu sais, j'ai des produits. Évidemment, moi, je suis aussi quelqu'un qui aime ça manger des produits naturels.
Ouais.
Tu sais, donc, habituellement, quand je vais courir par moi-même, tu sais, je vais manger de la nourriture normale, là, c'est sûr que je mangeais beaucoup plus de... Tu sais, dans un effort comme ça, tu veux à t'assurer de manger des calories rapides et tout ça. Mais il y a rien d'anormal, rien que j'ai jamais pris, tu sais, vraiment absolument rien.
T'as pas mangé des baies qui traînaient sur le
bord? Non, définitivement pas. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais pendant les 40 kilos qui ont suivi, là, ça a été vraiment un peu l'enfer. Là. J'avais
c'est
mal
long,
partout.
40 kilos,
puis c'est dur aussi mentalement parce que encore une fois, parce que si on garde en tête que je suis arrivée première au 30e, puis je me dis, merde, là, j'ai vraiment mal géré mon effort. Mais j'ai toujours continué à avancer, puis j'ai toujours gardé dans l'optique qu'il fallait que j'avance le plus rapidement possible, tu sais, vu ma situation. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que je suis arrivée au kilomètre peut-être 70-75, juste avant de descendre dans les canyons. Je suis arrivée à un ravitaillement, puis là, je me forçais à manger. Puis j'ai pris une bouchée sandwich au beurre de peanut, puis j'ai complètement mon ventre.
T'as vomi dessus.
Mon ventre a complètement refusé ça.
Ah ouais.
Mais comme à l'instant près, là, j'ai senti que oh non,
c'est parti.
Puis honnêtement, je suis désolée pour les auditeurs, mais ça a été comme une champlure. Là. En fait, c'est comme tu sais, comme un
boyau d'arrosage.
Qui fait juste plouh, là, puis j'ai tout sorti ce que j'avais dans le ventre, là, vraiment tout complètement. Puis ce qui est vraiment particulier, c'est que immédiatement, je me suis sentie mille fois mieux.
Nice.
Ouais, alors je me suis senti mieux.
Puis au même ravito que le monde te voit vomir comme une champlure, t'as tout de suite repris des affaires au ravito, genre « Ah, je vais la reprendre, je vais la finir.
» Non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris la sandwich, je suis partie à marchand.
Okay.
C'est quand je suis un peu plus loin que j'ai pris une bouchée, puis que là, c'est parti.
T'avais-tu... T'avais-tu du stock dans ta veste pour une fois que t'as vomi, mettons, pour remplir un peu les réserves ou non?
Ben c'est ça qui était effrayant. En fait, j'avais deux gourdes pleines de la boisson gazeuse, ouais. En fait, là, c'est ce que j'avais pris.
T'avais pris du Coke, genre?
J'avais pris. Moi, j'aime beaucoup le Canada Dry puis le Coke, en fait. Fait que ouais. J'ai pris un peu un mélange des deux, je pense.
Puis ils sont-tu dégazés?
Non, moi j'adore ça quand c'est gazifié.
Sauf que ça fait pas sauter tes bouteilles.
Bah pas tant que ça. Moi j'y vais quand même comme si parce que des fois au ravitaillement ils sentent pas à l'aise justement d'en mettre beaucoup. Puis s'ils le font pas, je fais juste dire top it off avec
ouais.
de l'eau là.
Ouais.
Mais s'ils le font, ben je fais juste enlever du gaz petit à petit puis okay. ça passe.
C'est mon premier marathon, j'avais mis une ceinture avec ouais. deux bouteilles en arrière.
Puis ils ont
j'avais mis des pastilles Noon dedans.
Ok ouais.
D'électrolytes, mais ça fait genre une espèce de petit gaz. Là.
Ouais ouais ouais.
Puis là je suis de même au départ en attendant, puis l'année je fais tab. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je regarde en arrière de moi, puis j'avais mes deux bouteilles, ils avaient sauté les deux. Ils avaient explosé par en dessous, fait que là, genre, j'avais plus mes bouteilles, juste parce que j'avais pas, genre, sorti l'air.
Ouais, 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 ouais. Non, mais moi, j'ai dit dans mes. Dans,
fait que tu mets direct de la liqueur dans tes, ouais, dans ouais. tes gourdes. Là.
Moi, ça m'aide beaucoup, là. Je pense que c'est la chose que je veux le plus dans mes.
Ouais. Ah, ça paraît en crise. Moi, j'ai au QMT, j'étais arrivé au kilomètre 40, je pense. Puis là, comme je commençais à avoir un bon petit down, là.
Ouais.
Fait que j'ai ouvert une de mes gourdes, j'ai mis du coke, je l'ai rempli de coke, j'ai juste comme calé le coke, ouais. j'ai lâché un bon vieux rot. Puis après ça, j'ai remis mes affaires, tu sais, mon Upica dedans, puis je suis reparti.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que là, t'arrives là, t'avais du Canada Dry puis du coke.
Ouais, ouais, puis non seulement ça, j'avais vraiment pas beaucoup de choses. Puis là, on descendait dans les canyons, ce qui est vraiment, comme j'ai dit, plutôt là, les points les plus chauds. Fait que mm-hmm. là, j'étais merde. Puis j'avais peur de retourner de bord parce que justement, j'avais peur qu'ils m'avaient vu vomir. Puis t'as toujours un peu l'ancienne pensée que t'as peur que quand tu vomis, les gens essaient de te garder pour s'assurer que,
ouais.
t'es,
ouais.
que tout se passe bien avec toi.
Fait je vais aller à l'autre parce qu'ils m'ont pas vu vomir.
<C'est ça. rire> Ouais. Je continue.
L'autre était combien de temps plus loin, mettons?
Il était,
combien de
kilos? Peut-être entre 5 et 10, là, okay, ouais. Fourrant, je descends un canyon au complet puis que je le remonte.
Ouais, ouais.
Fait que, non, ce qui était drôle, c'est que, ben là, j'ai manqué d'eau, là, puis là, j'ai commencé à vraiment mal filer. Et puis, j'avais un bandana de glace. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à manger ma glace.
Ah ouais?
En sortant du canyon, là, ouais, j'avais plus rien à manger, j'avais plus rien à boire. Ben, j'avais des snacks, là, mais comme j'avais tellement soif que je pouvais pas vraiment les penser manger ouais. quelque chose, là, fait ouais. que j'ai juste mangé ma glace. Je suis sortie au prochain ravitaillement. Ouais. Et puis, puis là, je bougeais pas vite, là, tu sais.
Ouais,
mais c'est ça qui était étrange, c'est ça que je comprenais pas, c'est que j'étais toujours dans le top 10. Fait que là, j'étais comme,
ouais. Qu'est-ce qui est en train de se passer, là?
Ouais, j'étais comme, ben, je file vraiment pas bien, ça va vraiment pas bien mes affaires, mais d'un autre côté, en termes de position, je suis quand même correcte. Fait que, tu sais, dans ma tête, je restais positive. J'étais comme, bon, on va continuer à avancer. J'arrive au prochain ravito. Puis là, on dirait que mon focus, c'était... J'ai commencé à manger juste des aliments, comme j'ai mangé du melon d'eau puis des patates à partir de ce moment-là.
Ouais.
Puis j'avais demandé, en fait...
Plus de bord, plus de gel, non, plus rien.
J'avais peur, en fait, que quelque chose avait... J'avais peur. Je sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais je me disais juste, si je mange des patates, je peux pas croire qu'une patate, ça va me faire vomir. Ouais. Là, une patate... Ouais.
Une patate bouillie, ouais, salée, là.
Ouais, puis tu sais, des fois, quand tu cours, j'ai aucune idée si ce que je dis fait vraiment du sens, mais ouais. dans ma tête, c'est ce que j'avais en tête, puis ouais. c'est ce que j'allais faire.
Puis en même, tu sais aussi qu'est-ce que ton corps est capable de, ouais. tu sais, genre, tu le sens, puis quand t'as vraiment pas envie de prendre un gel, t'as vraiment envie de prendre un gel.
Ouais.
Tu sais, t'as genre... On t'aurait donné le gel Morten dans ta main, t'aurais fait genre, tabarnak, je sais pas si ça tente, là, tu sais, l'espèce de gros gel gluant, là, genre, je sais que ça faudrait que je le fasse, mais ça me tente pas.
Non, exact. Ouais. Ouais, j'ai transféré, puis là, puis à partir du moment que j'étais capable de manger, en fait, le ravitaillement, là, j'ai eu deux canyons, puis quand je suis ressortie de l'autre côté, j'avais demandé le ravitaillement d'avant, puis c'est comme j'avais prévu ce qui allait arriver, parce que j'avais demandé bizarrement une sandwich.
Mm-hmm. Tu peux demander, dans le fond?
Ben, ma famille.
Ok, c'est ta crew qui suit dans le fond.
Était là, ouais, mes amis étaient là, puis je leur ai demandé. Et puis là, eux, ils ont dit à ma famille, parce que tu peux pas être là à tous les ravitaillements. Ouais. Donc, prochain ravitaillement, ils m'ont amené une sandwich vraiment, là. Puis les gens me demandent une sandwich à quoi? Puis c'était vraiment une sandwich comme roast beef, fromage,
ouais.
pickle, tomate. Ouais, ben, en quelque sorte, là, tu sais. Puis moi, je l'ai dévoré comme s'il n'y avait pas de lendemain, là. Ouais. J'ai vraiment mangé ça en deux
j'ai
secondes.
J'ai besoin d'un vrai snack.
Ouais, là. Ouais, j'avais faim, puis j'ai mangé ça. Et puis, à partir de ce moment-là, là, ma course allait complètement tourner. Puis là, je suis partie. Je pense que quand je suis arrivée là puis j'ai mangé ma sandwich, j'étais en 8e position. Puis ça, c'était le kilomètre 90. Et puis tu vois, finalement, j'ai été capable de remonter jusqu'à la 3e place. Puis c'est ça, c'est en fait le reste de l'histoire, c'est juste. En fait, à partir de ce moment-là, je me suis super bien sentie. Puis j'ai poussé jusqu'à temps que je suis allée.
Ouais. C'est hot, pareil. Puis ça, c'est une leçon sur comme les hauts et les bas d'une aussi longue épreuve. Là,
ouais.
T'sais. Moi, je suis encore dans ce mindset-là, tu sais, de me dire, là, la prochaine fois, faut que tu passes à travers le petit bout qui est vraiment chiant. Parce qu'il va en avoir un bout de chiant, puis je le sais, je le savais même avant de le faire, sauf qu'il y en a quand le bout de chiant arrive, puis t'es comme plus capable d'avancer pantoute. J'avais la cheville défoncée, j'étais comme... plus capable d'y aller, là, tu sais.
Ouais, mais c'est... En fait, moi, ce que ça m'a fait réaliser le plus, c'est que c'est là que c'est super important de, quand ça va pas bien, de continuer d'avancer le plus vite que tu peux, même si c'est pas très vite.
Peu importe c'est quoi cette vitesse-là.
Peu importe ce qui arrive, tu sais, avance, continue d'avancer, puis à un moment donné, ça va passer.
Ouais.
Puis ça a passé, là, je veux dire, à partir de... Comme, au moment où j'ai commencé à me sentir mieux, je me suis sentie mieux. C'est comme si la course avait commencé. Ouais, puis il faut juste que tu passes au travers. Puis c'est ça qui est bon à savoir aussi, c'est que si je focus sur le 40 kilos qui n'a pas bien été, je te dirais que j'ai eu la pire course de ma vie. J'ai jamais eu un down comme ça dans une course, jamais de ma vie. Mais c'est que j'ai jamais fait de 160 non plus. Donc, pour quelqu'un qui s'essaie sur une plus longue distance, il faut juste vraiment que tu te rappelles que faut que tu pousses au travers à ces moments-là. Puis tout. Ouais. En fait, l'autre affaire aussi, c'est que tu n'es pas la seule personne qui a un down. Le monde, je veux dire, pendant un 160, c'est pratiquement impossible que tu n'aies pas un moment de down. Fait, c'est juste que les gens les ont à différents moments. Puis toi, c'est juste faut que tu pousses à travers quand tu l'as, parce que quand tu vas bien aller, quelqu'un va être dans son down et tu vas le dépasser.
Ouais, ouais. C'est une bonne leçon.
Ouais, ouais.
Fait que là, finalement, t'es remonté jusqu'en troisième place. Une troisième place sur Western States, c'est massif quand même. C'est un accomplissement assez incroyable. Est-ce que t'as senti qu'il y a quelque chose qui a changé après cette troisième place-là dans l'idée que t'avais d'une carrière réelle et potentielle en trail running?
Ouais, mais c'est sûr
de faire genre, OK, là, peut-être qu'il y a plus d'opportunités, plus de...
Ouais. Mais je te dirais que, tu sais... Je suis pas prête à dire que je veux changer ma recette actuelle, en voulant dire que je suis prête à considérer qu'il y a peut-être d'autres options qui peuvent améliorer ma situation, mais je suis pas prête à tout chambouler. Je pense qu'une performance comme ça amène, c'est la confiance pour la prochaine.
Mm-hmm.
Et puis c'est une série de bons résultats, je pense, qui bâtissent vraiment une carrière. Puis c'est ça que je veux faire. Je veux pas juste avoir un bon résultat, tout changer, puis là faire en sorte que
là ça marche plus.
Je suis très 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 contente de mon résultat. Je suis pas prête à dire que je veux changer ma vie pour autant, mais je suis prête à dire que je suis prête à tout donner pour la prochaine aussi, pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner là.
Puis cette prochaine là, c'est pas le tour de l'île d'Orléans. C'est l'ultra trail du Mont Blanc. Puis moi, je pensais pas, mais je veux dire, j'ai pas entendu parler de ça, tu planifiais faire ça. Est-ce que c'était dans les plans avant même Western State ou après Western State, t'as fait, bon, mais là, la plus grosse après Western State, pas mal UTMB.
Non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je m'étais inscrite là, quand je voulais avoir Western States. Mm-hmm. Là, quand je voulais aller à Western States, je m'étais inscrite à tous les trois Golden Ticket Races.
Ouais.
Et puis, mon seul objectif, c'était Western States. Ça allait être ça, mon objectif de l'année. Puis, c'était clair dans ma tête. Mais là, j'ai gagné la Bandera, qui était vraiment ma surprise. Là, en fait, je m'attendais pas à la... on s'attend toujours à donner notre maximum, mais je m'attendais pas à gagner la première course d'essai. Et puis, on dirait que ça m'a comme dit, bon, coudonc, peut-être que c'est...
Là-dessus?
Ouais, c'est réglé, parfait. Je vais faire Western States, c'est clairement mon objectif A. Mais en même temps, il y avait la période de registration pour l'UTMB. Et puis, je pouvais pas la manquer, dans le sens que si je m'enregistre pas pour l'UTMB, à ce moment-là, là, j'avais comme trois jours, je pense, après la Bandera. Et puis, j'étais un peu sur un high, puis je me disais, tu sais, j'ai jamais fait de 100 miles, je suis en santé, les choses vont bien pour moi, je vois pas pourquoi je me lancerais pas le défi de faire les deux. Puis aussi, pour le fun, là, je veux dire, en fait, tu sais, beaucoup d'amis, beaucoup de Québécois qui vont à l'UTMB, je pense que... Puis, je pense que c'est quelque chose aussi que je prends plus pour acquis, le fait que je suis capable de courir. Donc, pendant que je suis capable, je veux vraiment faire tout ce que je peux faire.
Ouais.
Et puis là, l'UTMB, donc je l'ai mis sur le calendrier dès janvier.
En me disant, oh, on verra.
En me disant, on verra, mais avec l'intention complète de la faire, si j'étais en mesure de la faire.
Ouais.
Mais en comprenant aussi que mon corps aurait pu réagir de façon complètement différente après Western States. Mais tu vois, je récupère quand même bien. Je sais pas quand...
J'ai vu une vidéo sur Instagram de toi le lendemain de Western States. C'est assez incroyable. Tu sais, t'arrives troisième à comme une des compétitions les plus relevées au monde. Puis le lendemain, tu peines à monter des escaliers. Là. Genre, c'était, ouais. tu devais être démonté complètement.
Ouais, mais j'étais complètement démonté parce que, ben, l'affaire, c'est que là, je vous ai pas compté, mais j'ai vomi vraiment beaucoup pendant la course, là. J'ai vraiment tout vidé mon. En fait, je me suis tout vidé. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'une fois
que après avoir vomi en champleur ou.
Mais j'ai vomi en champleur à maintes reprises, là. Okay. Comme ça a été comme à quelques reprises. Et puis après ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fini la course. Mais une fois que j'ai traversé la ligne d'arrivée, là, il fallait que je fasse un drug testing. Et puis, il a fallu que je reboie du liquide, mais ça ne passait pas du tout. Puis là, j'ai revomi j'ai tout revomi. Fait que c'était vraiment difficile
pour moi. Misère.
Ouais, ça a été pas le fun, là. Ça a vraiment pas été le fun. Fait que j'ai été vraiment déshydratée, là. Je pense que, tu sais, mon urine était brune, là. Ouais. C'était vraiment problématique. Ouais. Et puis, ils voulaient me garder, justement, parce qu'ils trouvaient que j'étais complètement déshydratée. Et puis, finalement, ils ont pu, en tout cas, j'ai pu quitter. Puis, je pense que c'est une grande raison pourquoi j'étais tellement comme mes muscles, j'étais sec.
Plus rien qui se passait, des crampes, là.
J'avais mal, là, comme descendre. Mais tu vois, donc, cette vidéo-là, la course, je l'ai finie le samedi soir. Cette vidéo-là a été prise le dimanche soir. Puis le lundi, j'allais déjà beaucoup mieux. Okay. Le lundi, puis le mardi, là, j'étais capable de marcher.
Est-ce que t'avais des douleurs musculo-squelettiques ou est-ce que. C'était juste des bonnes vieilles courbatures, là.
Écoute, moi, quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, là, puis dans les 10 minutes qui ont suivi, là, il a fallu que je me couche à terre. Puis, en fait, où est-ce que j'avais le plus mal, c'était les hanches, là. J'avais comme des crampes, là. Ouais. Je sais pas pourquoi ça me faisait mal, là, mais c'était vraiment comme si mon corps crispait tout.
Ouais.
Honnêtement, la seule chose que je peux dire, c'est que j'étais raquée. J'avais pas de.
C'était un raquage, ouais, puis un raquage, pas, ça s'en va, tu sais. Ouais, ça s'en va vite quand même.
Ouais, j'avais aucune douleur que je me disais, ah, oh, ça c'est inquiétant. Ouais. Non, puis j'ai.
Aucun genou busté, aucune cheville.
Non, j'ai jamais tombé. Ouais. Parce qu'il est très très rare pour moi. J'ai rien eu de douleur comme qui m'inquiétait, mais j'étais incroyablement raquée puis complètement déshydratée, là. Ouais. Pendant un petit bout, là, tu sais, je me sentais woozy, là. Si je me levais, là, j'étais comme, oh, je sais pas si tu as vu l'autre vidéo, mais je me suis aussi évanouie, là, pendant une entrevue, là.
Non, j'ai pas vu ça.
Celle-là aussi est quand même bonne.
Aïe, ouais. C'est fou. C'est quand même intense. Est-ce que, mettons, dans cette période-là de 24-48 heures après la course, tu te disais, je vais en refaire un autre dans, je sais pas, 2 mois, là?
Ah ouais, oui, moi très rapidement.
T'étais excitée à l'idée de faire ça, t'étais pas genre, ça c'est la pire chose qui m'est arrivée de ma vie.
Non, vraiment pas. Moi, c'est drôle parce que j'étais tellement contente de pouvoir avoir eu la troisième place pour pouvoir retourner l'année d'après. Mm-hmm. C'était mon focus numéro un, tu sais, parce que c'est sûr que je pense qu'en l'ayant fait, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de
beaucoup
moi.
Beaucoup de. Ouais, c'est ça, exact. Là, tu l'as fait une fois, là, tu sais, là.
Mm-hmm.
Ouais.
Mais aussi, j'étais prête à faire l'UTMB. C'est sûr que par la suite, les 2 semaines qui ont suivi, les 3 semaines qui ont suivi, les 3 semaines après la Western Stage, j'ai fait une grosse sortie, puis mon corps a vraiment réagi de façon qu'il réagit pas habituellement, là, tu sais. Puis, c'est juste un choc un peu, puis là, je me dis, OK, ouais, là, mon corps, est-ce qu'il est prêt?
T'as
un peu des doutes, mais tu passes au travers, puis ton corps, il revient.
Ça revient. Puis là, à moins d'un mois de l'UTMB, j'imagine que tu vas partir éventuellement pour aller t'entraîner dans les Alpes.
Ouais.
Puis à quoi ça ressemble ton programme maintenant, au moment où est-ce qu'on se parle, là? On parle de. Je sais que la dernière fois que j'avais posé la question à Mathieu quand il était venu sur le Sans Filtre, il était comme la plupart des athlètes élites, j'imagine, un peu frileux de dévoiler son kilométrage ou ses statistiques vraiment, là, tu sais, mais. Parlons juste en termes d'heures ou en termes de. Ça ressemble à quoi, mettons, en termes de grandes sorties versus petites sorties? Ton workout, tes trainings ressemblent à quoi en ce moment?
Ouais, moi, je suis pas tant frileuse. Honnêtement, là, je suis contente de pouvoir partager mon expérience. Puis, la seule chose que je vais dire, c'est que chacun doit trouver son propre.
Exact, c'est ça. Ça, c'est
sûr. Puis, moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est moi, j'aime ça courir 100 miles par semaine. C'est juste la distance qui fonctionne pour moi. J'aime ça. Moi, faire des entraînements spécifiques, c'est pas non plus quelque chose que j'adore. Donc, j'aime ça faire du volume. Mais je pense que ça a aussi beaucoup à voir avec le fait que, justement, j'ai fait beaucoup d'années d'athlétisme où j'ai travaillé ma vitesse. Je la travaille pas beaucoup. Donc, je fais beaucoup de volume.
Puis, t'en as pas, tu sais, c'est pas du ultra trail. En un, il y a une limite, là. T'es pas obligé de partir en 3 flats du kilo, là.
Non, exact. Ouais, tu sais, à un moment donné, faut pas non plus faire mal juste pour ça.
Faut que tu sois capable de rester avec. Mettons, dans ton cas, là, moi, c'est loin d'être mon cas, là, mais dans ton cas, à toi, il faut que tu sois capable de rester avec les premiers sur le flat assez facilement.
Ouais.
Pas mal ça, la seule vitesse que tu as besoin. Là.
Ouais.
Un peu comme en natation, dans le triathlon, mettons, les Ironman. Là,
ouais.
Ça sert à rien que tu sois le meilleur nageur. Faut que tu t'amènes à un niveau d'être capable de rester dans le pack That's it. Ouais, t'as pas besoin d'être capable de sortir une minute avant le pack, ça sert à rien.
Ouais, ouais, c'est une très bonne comparaison,
ouais,
en fait.
C'est ça. C'est, faut juste que tu restes avec les leaders faciles.
Ouais.
Ouais, peu importe à quelle vitesse
tu cours. Ouais, ouais. Puis tu sais, comme si c'est nageur, tu sais que t'as pas besoin de nager tant que ça pour pouvoir.
Non, c'est ça. Non, non, non. Pour être capable de tenir le pace de leader, je serais encore capable aujourd'hui sur le peloton de Pro Ironman.
Ouais, exact.
Puis je nage plus tant que ça.
Non, c'est ça, c'est ça. Fait que faut juste trop. Mais ça, c'est serait pas vrai pour quelqu'un qui est pas un nageur.
Exact, c'est ça. Exact.
Il n'y a pas de recette parfaite. Moi, c'est ce que j'aime. Puis moi, ce que j'aime faire aussi, c'est me préparer pour la situation. Là. Donc là, en Californie, c'est sûr que j'étais le mois avant en Californie. Là, tu m'as demandé si je m'en vais dans les Alpes. Je pars vendredi, en fait.
Ah ouais, hein?
Ouais. Je vais rejoindre Mathieu, en fait. On va avec l'équipe Salomon, on fait le tour du Mont-Blanc. On va le faire en 4 jours.
Ouais.
Fait que ça, c'est, ça va être la préparation idéale.
Fait que est-ce que vous faites exactement le parcours trail par trail?
Exactement.
En 4 jours?
En 4 jours,
OK. Ouais. C'est hot, ça?
Ouais.
Fait que comme ça, tu le sais, là.
Ouais,
tu les connais les pitches, tu les connais les descentes, tu sais où est-ce que tu peux appuyer. Puis...
Ouais, puis en fait, ce qui est encore plus le fun aussi, c'est sûr, c'est un bon entraînement. Mais ce qui est cool, c'est qu'on le fait évidemment pendant la journée.
Ouais.
Tandis que pendant la course, ben, y a une grosse partie que, que je verrais pas c'est à quoi ça ressemble. Fait que je suis contente de pouvoir aller faire ça.
Ouais.
Mais c'est sûr que ça va être 4 jours qui vont être très payants. Là, puis, fait que moi, je te dirais, entre la Western States et l'UTMB, ce qui a été le plus difficile, c'est de gérer un peu. Là, OK, est-ce que ton corps récupère assez versus est-ce que tu es en train de builder assez? Fait que puis ça, c'est vraiment, il a fallu que je m'écoute là, parce que j'avais des douleurs au dos, j'avais des douleurs à la hanche qui persistaient. Donc, il a juste fallu que, justement, là, il a fallu que je recule un peu sur mon kilométrage hebdomadaire et puis que je mette plus d'emphase sur les grosses sorties. Parce que là, mon corps, il faut qu'il soit réhabitué à les grosses sorties, du dénivelé, tout ça. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait au courant du mois de juillet. Puis, je vais voir un peu ce que ça va donner au mois d'août, mais c'est la grosse erreur aussi que les gens font. Là, puis, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de faire le doublé Western States UTMB.
Ouais.
C'est un doublé qui est très controversé, j'en suis très consciente. Donc, je veux juste m'assurer de prendre ça avec beaucoup de caution puis d'arriver peut-être un peu moins préparé, mais plus reposé pour pouvoir au moins compléter la distance.
Là. Ouais, je comprends, je comprends. Puis non seulement Western State UTMB, mais là, dernièrement, le Hard Rock 100 UTMB aussi, là, c'est comme...
Ouais, ça, c'est
encore, c'est comme un mois et une semaine, là. Ouais. Ça, c'est insane. Là.
Ouais. Oui, la seule différence aussi, puis évidemment, là, c'est des enjeux qui sont différents. Hard Rock est plus près de l'UTMB, mais c'est beaucoup plus spécifique.
C'est le même genre d'entraînement, c'est ça, exact.
Tandis que la Western States puis l'UTMB, je te dirais, c'est pas du tout le même entraînement.
Ouais, ouais.
C'est pour ça souvent que les gens évitent de faire les deux.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis tu te sens-tu quand même confiante? T'as-tu hâte?
Ouais, moi j'ai hâte, là, j'ai vraiment hâte. Ouais, je te dirais que.
T'as l'air de quelqu'un qui a vraiment hâte à ce genre d'affaires-là. T'as vraiment l'air de triper sur faire
ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, il n'y a pas de doute, là. En fait, moi, je pense que c'est la raison numéro un pourquoi quelqu'un finit un ultra, là. C'est que si tu te présentes sur la ligne de départ avec le goût d'arriver à l'arrivée.
Ouais.
C'est pas juste. Tu sais, c'est ça la différence aussi. Il faut pas que tu te présentes avec un objectif que c'est la seule chose que tu veux faire. Puis si t'es pas dans le top 3, tu t'arrêtes ou si t'es pas dans le temps que tu veux, t'arrêtes. L'objectif, c'est de finir. Puis la performance vient par après, là.
Ouais. Je veux qu'on parle un peu avant de te laisser partir. Je veux qu'on parle un peu de nutrition parce que c'est le podcast Upica. Upica, c'est ma compagnie de suppléments. Puis je veux qu'on parle un petit peu de comment tu t'alimentes pendant ces longues sorties-là. Parce que c'est une affaire de t'alimenter la journée de la course, tu sais. Mm-hmm. Parce que là, t'es un peu. Ben, j'imagine qu'à ton niveau, ou est-ce que dans des grosses courses comme ça, toutes les ravitaux, tu peux un peu pogner ce que toi, tu prépares, mettons. Mm-hmm. Mais pour la plupart des gens qui nous écoutent, quand tu arrives sur un ultra, t'as deux drop bags sur 6 ravitaux.
Mm-hmm.
Puis sinon, il faut que tu pognes ce que c'est ravitaux, là, tu sais.
Ouais.
Comment est-ce que toi, t'as entraîné spécifiquement, est-ce que t'as entraîné globalement ton estomac être capable de prendre n'importe quoi, mettons? Excluons l'histoire du vomi du Western State. Là.
Ouais, je te dirais que c'est ça avant la Western State, ça, puis évidemment, il y a une première pour toutes, mais moi, je suis vraiment quelqu'un qui n'a jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème d'estomac, puis je te dirais que je suis quelqu'un qui pourrait manger un plein repas.
N'importe quoi.
Partir à courir, puis même que. Puis je pense que j'ai entraîné mon corps un peu à faire ça parce que moi, je cours partout, là, donc tu sais, je vais souper quelque part, je repars en courant, je vais prendre un verre, je repars en courant. Tu sais, il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de. C'est pas parce que j'ai bu 2 bières que je peux pas courir, c'est pas parce que j'ai bu manger un repas que je peux pas courir.
Mm-hmm.
Donc, je pense que mon corps est préparé à ça. Donc, j'ai pas de problème. Puis moi, je préfère même manger des aliments complets. Là, quand je m'entraîne, habituellement, c'est ce que je fais.
Quand tu fais, mettons, des longues sorties, est-ce que tu Genre, tu cuisines des boules d'énergie ou tu t'amènes des bananes?
Non, je serais du genre à amener du fromage, des carottes, des amandes, des chips, des choses, vraiment des aliments. Évidemment, j'ai des aliments qui sont plus faciles à traîner, là, comme c'est sûr que moi, je suis avec NAC, donc j'ai les gaufres. J'ai les.
Ils sont vraiment fucking bonnes, gaufres, NAC.
Ouais, les gaufres sont vraiment, vraiment bonnes.
Moi, je trouve que quand t'es manges, mettons, puis quand t'es pas. Quand t'es pas en effort max, là, t'es manges, puis genre, hey, Chris, ça va être facile. Moi, c'est ça qui m'est arrivé, puis là, je parle pas de NAC, je parle de n'importe quel bar ou, tu sais. Puis là, t'es manges en préparant pour ta course, tu fais que ça va être vraiment facile à descendre. Puis là, finalement, t'arrives dans la course, t'es comme assoiffé, puis là, chaque bouchée reste dans ta bouche pendant à peu près 10 minutes d'affaire, genre, ça veut pas descendre.
Ouais, mais non, mais moi, les gaufres, je te dirais, c'est l'exception à tout ça.
Les gaufres, ils font ça.
Ah, moi, les gaufres, je suis capable.
Ils descendent seuls, mais ils sont vraiment bonnes.
Ouais. Puis en fait, ce que je trouve cool aussi, c'est qu'ils sont tellement faciles à traîner. Tu sais, même quand t'es une fille, tu les mets dans tes tops de sport, tu sors ça, tu penses une gaufre, c'est super facile.
Puis si ils cassent, c'est pas grave.
Non, c'est vraiment pas grave. Non, moi, les gaufres, c'est l'exception
à la règle.
Ouais, à la règle, moi, je suis capable de les manger. Puis même quand j'avais mal à Western States, là, je mangeais des gaufres.
Ouais. Puis ça passait.
Ouais, ça passait, ça passait.
Ils sont vraiment bonnes.
Ouais.
Ouais. Fait que les gaufres, t'es amènes, sinon c'est juste des noix, des carottes, des affaires que tu.
Ouais, moi, je suis capable de manger des choses normales. Puis c'est absolument c'est ce que je veux. Là. Je veux manger des choses normales. Mais tu sais, pour revenir à ta question initiale, je te dirais, quand tu fais des drop bags, moi, la chose que je recommande toujours, c'est de la variété.
La diversité,
là. Ouais. Parce que c'est sûr que si tu t'amènes 10 de la même chose à un moment donné, tu vas être tanné. Là. Peu importe à quel point la gaufre, t'as trop bonne, si t'en manges 20. Ta 21e, t'en voudras vraiment pas. Puis c'est là que ça devient problématique.
Quand tu veux plus la manger, Je regardais pour le Hard Rock 100, je suis François Den puis Kylian Jornet sur Instagram. Puis les deux montraient qu'est-ce qu'ils mettaient dans leur sac. Puis les deux avaient une approche tellement différente. Là, genre, François Den, c'était genre. Ah là, j'ai ça, genre, puis je vais essayer, voir, puis c'est toutes des affaires différentes, de compagnies différentes, tu sais, qui fait juste comme, pour varier, tu sais. Puis après, t'avais Kylian Jornet qui avait Morten, juste des gels Morten noirs, puis les caféines blancs, là, tu sais. Les deux, c'est une approche complètement différente, là.
Faut que tu sois
game de prendre la même chose pendant 160 km. Là.
Ouais, mais je me demande s'il prend aussi des choses au ravito. Là, parce que Kylian, on l'a déjà vu manger des choses. C'est comme avant une grosse course, il mange juste un morceau de chocolat puis du café. Là,
je pense
qu'il y a probablement un peu de tout. Là.
Vraiment.
Ouais.
Cool. Puis là, dans le fond, fait que tu t'en vas vendredi. Est-ce que tu amènes avec toi certaines affaires d'ici que tu retrouveras pas, mettons, là-bas, où tu pars vraiment puis tu vas pogner toutes tes affaires pour la nutrition là-bas?
Non, c'est sûr que la nutrition, c'est quelque chose que j'arrange ici puis que je m'en vais là-bas tout équipé. Puis
avec toutes tes affaires.
Ouais, absolument.
Qu'est-ce que tu mets? Ben là, la liqueur, mais tu mets-tu aussi le drink de NAC, là, énergie, dans tes gourdes?
Ouais.
Puis est-ce que tu alternes? Parce que je sais qu'il est quand même assez dense, là. Est-ce que tu as une bouteille d'eau puis ça aussi?
Non, moi, je trouve ça facile, en fait, de rentrer les calories liquides. Moi, je fais les deux. Mais je prends pas de drink mix et eau, mais je fais drink mix liqueur, mettons.
OK, c'est ça.
Je vais faire les deux,
Puis est-ce que dans des courses où est-ce que les ravitaux sont peut-être plus loin ou tu sais qu'il va faire vraiment chaud, tu mets un petit Camelback de 500 ml Salomon aussi ou non?
Non, je te dirais qu'à...
Tu fais jamais ça?
Non, absolument. En fait, tous les courses que j'ai faites dernièrement, la seule chose que j'ai, c'est deux gourdes de 500, puis ça fait la job.
Puis c'est assez.
Ouais, mais encore
peut-être
une fois...
Peut-être que le problème, c'est que je vois pas assez vite entre les ravitaux. C'est pour ça que j'arrive au QMT, ça m'est arrivé, j'ai comme amené... 30 minutes, j'avais plus d'eau. Tu sais, pendant 30 à 40 minutes,
t'avais plus d'eau.
J'avais plus d'eau. Puis là, j'arrivais pas au ravito, puis le ravito, il arrivait pas. Puis là, je suais, puis j'étais comme là, j'étais en train de chier ça. Là, mettons, l'hydratation, moi, je sais pas, je pense que je suis plus que la moyenne des gens. Là.
Ouais.
Mettons, j'irais jogger tantôt, là, puis je peux pas aller. Moi, me déplacer en courant, je peux pas le faire. Parce que, aussitôt que je commence à me déplacer, je commence à suer, peu importe qu'est-ce qui se passe. T'sais. Fait que j'arriverais au souper, mettons, là. Couvert de sueur.
OK.
Ça serait pas le fun pour la personne qui soupe avec moi, mais pour mon cerveau.
Non, je comprends. Mais ça serait intéressant de voir un peu c'est quoi ton ratio de sueur, puis aussi parce que juste évaluer parce que ton corps peut pas non plus assimiler trop d'eau. Là. Fait que des fois, c'est juste que t'en bois trop, puis ça sert à rien.
Si tu
bois trop rapidement. Donc, c'est là qu'il faut que tu. C'est à toi aussi de gérer que, ben là, en une heure, tu devrais boire à peu près un litre, tu sais.
Ça va venir sûrement avec l'expérience de savoir. La vitesse que je peux tenir entre les ravitaux, tu sais, de voir, mettons, parce que tu peux te faire surprendre par une trail qui avance pas. Là.
Ouais, absolument.
Puis l'autre jour, ça m'est arrivé, j'étais allé faire, je sais pas si t'as déjà fait la trail de la clinique du coureur.
Ouais, ouais, ouais.
Au lac Beauport.
Ouais.
Puis j'ai fait la boucle de 30 kilos. Sauf que j'avais un mariage, mais j'étais allé, le mariage était à 15h.
Ouais.
Puis moi, j'étais allé là, je me suis dit que je commençais à me déplacer de chez nous à 10h, tu sais. Puis là, ouais. Moi, je pensais dans ma tête, j'allais dire, 3h30 max, là. 3h30 maximum pour faire ça. Tu sais, ouais. Je voyais, mettons, le temps des meilleurs qui faisait genre 2h30, 2h45, là. Puis j'étais comme, 3h30 max, là, que ça ouais, me prend ouais. Faire ça. Finalement, 3h30 après, je regarde ma montre. Là, il me restait encore 9 kilos. Puis je regarde, mettons, sur mon GPS, puis je suis dans le haut du lac Beauport, là.
Ouais, ouais,
loin
ouais.
De mon char, là. Puis je suis en retard au mariage. J'ai juste comme... J'avais mal planifié mes affaires, tu sais. Puis j'aurais ouais, mal planifié... c'est peut-être pour ça que j'ai mal planifié, justement, mais...
Ouais.
Mais mon buvage entre les ravitaux, mettons.
Ouais, ouais, mais ouais. Il faut juste que tu évalues un peu... Moi, c'est plus en termes de temps, là, que la distance.
Ouais,
là. Faudrait juste que tu... Moi, je te dirais, en moyenne, ne bois pas plus que deux... Bah, enfin, encore une fois, c'est propre à chacun.
Ouais, ouais.
Ton corps, il serait difficilement capable d'assimiler plus que deux gourdes en une heure. Là,
ouais, ça, non, c'est ça. Ça, ouais. C'est ça, c'est ça, je le fais jamais. Ouais. C'est juste que des fois, ça prend plus que
ouais,
ça.
Ouais, ouais, non, mais c'est ça, ça prend plus qu'une heure.
À peu près une gourde par heure, moi, c'est ça. 500 ml par heure, okay. Genre. C'est un peu ça que je vise, là.
Ouais, ben ça dépend à quel point il fait chaud, là, évidemment.
Ouais, c'est ça,
là.
Ouais.
À Western, mettons, je pense que tu boirais plus que...
À Western, je voudrais mourir. Moi, que tu me dises que t'aimes courir à genre des températures chaudes de même, moi, c'est ça que je te disais. Tu sais, moi, juste courir à Montréal, là, je vois une bonne différence entre comme...
Montréal,
mes
Québec.
Performances à Québec versus mes performances à Montréal. Montréal, je me sens... Genre, quand je vais courir à des chaleurs, comme cette semaine, il a fait, là, ici, à Montréal, tu sais, je me sens gros, genre, je me sens enflé, on dirait, là. J'ai comme de la misère à bouger, là, tu sais.
Mais je pense que, ouais, ben, je sais pas à quel point tu le fais, là, mais je pense que plus tu le fais, plus
c'est
ton corps
va s'habituer. Puis étant donné que j'aime pas ça, je l'évite, fait que peut-être que je m'habitue pas, tu sais.
Ouais.
C'est rare que je vais courir midi... plein soleil. Là.
OK, moi, tu vas me dans ça.
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est ce que je ferais, là, ouais.
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 Écoute, où est-ce que les gens peuvent te suivre si t'as des shout-outs à faire, si t'as des trucs, c'est le moment de le faire. On te suit pour le UTMB qui s'en vient?
Ben ouais, c'est sûr que les gens peuvent me suivre sur Instagram, si je dirais c'est probablement la page que j'alimente le plus.
Mm-hmm.
Strava aussi, moi, je mets mes courses là-dessus. Facebook, un peu moins, mais c'est sûr que les gens peuvent suivre là-dessus, mais je te dirais Instagram puis Strava, c'est les deux plus gros.
Parfait, on va mettre ça sur dans la description du podcast. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me jaser. C'était vraiment super intéressant.
Yes, merci beaucoup de m'avoir.
Yes.